à voix nue. Ce soir encore, hommage à André Putman, décédé le 19 janvier. Catherine Gell avait rencontré la grande dame du design français en 2002. Tout de suite, entre art et commerce, littérature, une insatiable curiosité.
André Putman, bonjour.
Bonjour.
Pour ce cinquième et dernier moment que nous allons passer ensemble, j'aimerais que nous évoquions ce à quoi, il me semble, votre vie s'est attachée, c'est-à-dire à faire se rencontrer, échanger des domaines a priori différents,
c'est
mais
vrai,
que vous ne supportez pas, depuis toute petite, de voir traiter différemment. Donc, ça part des milieux sociaux différents, cette façon qu'on a de ne pas parler de la même manière aux gens, suivant
leurs conditions.
Suivant leurs conditions, merci. Et aussi cet attachement à faire se rencontrer aussi bien les arts que la mode, que la décoration ou le design. Il y a une expérience, une de vos premières expériences dans le domaine, on va dire, du commerce, qui a consisté à y mettre des artistes. Pouvez-vous nous raconter cette idée et la manière dont tout ça s'est déroulé?
Eh bien, peut-être que ça remonte à très loin, ça aussi, c'est que j'ai éprouvé l'incroyable importance de l'art et de ce qu'il apporte aux êtres humains. Ça, vraiment, je l'ai éprouvé très très jeune. Je pense que ça a été très développé par la musique et cette passion commune avec ma mère et ma sœur pour la musique, qui a fait qu'on a un peu surexposé affectivement et émotionnellement des petites filles qui avaient une drôle de vie, qui avaient des grands frères et sœurs, d'autres mariages, qui étaient un peu ballottées comme ça, et qui étaient sauvées et qui se ressaisissait constamment, même comme enfant, comme assez petit enfant, dans le bonheur avec la musique. Et la musique et la peinture. Et moi, je sais que quand j'étais petite, je disais toujours à ma mère qui m'emmenait au concert, est-ce qu'il y a une première audition dans ce concert? Et elle ne comprenait à peine pourquoi c'était si important pour moi. Et c'était l'idée, en voilà un nouveau qu'on n'a jamais entendu. Donc, il va nous surprendre. Et c'était ça que j'aimais. Et je pense que j'ai aimé ça avec les arts plastiques aussi.
Alors, est-ce que c'est pour cette raison que lorsque vous commencez à connaître et puis ensuite vous accompagnez un peintre comme Bram van Velde,
oui,
par exemple, et le jour où c'est possible, où l'occasion s'offre de le faire,
oui, c'est tellement bien dit, c'est le jour où c'est possible. Un jour, il y a... Oh, mais on connaît Bram van Velde, on vit avec lui. Mon mari était très, très... a été considérable dans l'aide qu'il a apportée à Bram van Velde. Et il a pas fait ni pensé éditer des lithographies à l'époque, mais ma passion pour la diffusion d'une beauté pour tout le monde lui a fait penser que qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces magasins très nombreuses succursales qui nourriraient les gens de bonheur avec de l'art.
Alors là, il s'agit de l'époque où vous travaillez avec Denise Fayolle.
Voilà. Denise Fayolle, au fond, dans sa générosité à mon égard, avait deviné que je pourrais peut-être amener des idées dans des milieux encore très fermés, où rien de brillant s'était tellement passé pour ces gens. Et il y avait quand même déjà Alechinsky avec Bram van Velde et bien d'autres. Et ça a été le début d'une considérable activité.
Alors,
pour Jacques Putman.
Comment convainc-on justement un Bram van Velde ou un Alechinsky? Comment leur propose-t-on de leur dire
parce
eux recherchent la reconnaissance?
Ils cherchent rien,
ils cherchent...
sinon à rester au fin fond de leur sincérité, de leur risque, parce qu'il y a toujours été frappé par le discours de Brabant-Bell sur le risque. Il avait l'impression qu'il risquait sa vie quasiment en faisant des tableaux. Et simplement, ils ont été sensibles à l'idée, comme ça, généreuse, de mettre à portée d'un très grand nombre de gens des œuvres tout à fait dignes d'être considérées comme des œuvres d'art, c'était dit l'autographie, tirée à un nombre d'exemplaires plus que strict, avec la oui. destruction de la pierre ou de la feuille de cuivre quand il s'agissait d'une pointe sèche.
Alors un petit peu plus tard, et en 1971, je crois, avec Didier Grimbach, qui est maintenant, j'espère que je n'ai pas me trompé, mais président de la Fédération de la Haute Couture. Vous imaginez et vous...
Rêvez
de mettre au point et de faire fonctionner, et vous allez le faire fonctionner...
De fédérer, au fond, le talent avec l'industrie.
Et ses créateurs oui. et industriels.
Voilà.
Donc, comment se passe, en fait, la mise en route, d'abord cette idée, ce fantasme presque, oui. et puis le coltinage bien, avec la réalité, si je puis dire.
Encore une fois, il y a cette idée de réconcilier des choses dites frivoles, comme la mode... Mais on va aussi trouver de l'art dans ce lieu qui n'a eu qu'une vie assez courte, mais qui a été spectaculairement reçu par les gens. Il s'agissait d'une ancienne petite gare réservée aux colis, je ne sais
pas,
il y a une espèce de mot pour ça, qui était rue de Rennes, tout près de la place Saint-Germain-des-Prés. C'est devenu toutes sortes de choses après, une banque, une boutique de sport, mais c'est un très très grand lieu. Et c'était au fond ma première rencontre avec l'architecture industrielle. Et finalement, la vie est tellement curieuse. On m'a demandé très souvent de traiter des immeubles qui étaient en fait des immeubles d'architecture industrielle. Et c'est drôle parce que quelquefois, je me dis, mais il y a des points communs entre toutes ces choses. Les gens que j'admirais tant, qu'on méprisait, et après j'aimais l'architecture industrielle, elle était très méprisée et maltraitée et démolie. Les entrepôts, les nés font partie des plus belles choses qu'on puisse voir. Eh bien, l'immeuble jumeau,
oui.
parce qu'il y avait exactement le même à côté, jumeau,
oui.
il a été détruit.
Mmh.
C'est intolérable à imaginer. C'est comme de détruire la tour, le château d'eau sur lequel j'ai travaillé pour en faire un palace à Cologne.
Et justement, ces endroits, donc on parlait de créateurs et industriels, pour vous, ce sont des endroits suffisamment neutres et méprisés pour qu'ils doivent s'y passer des choses ?
Non, ce sont les endroits qui, dès qu'on s'en occupe et qu'on les utilise en les détournant, sont en fait d'une grande beauté. Mais il y a tellement de paresse et de mauvaises habitudes mentales. On classe les choses. C'est méprisable, c'est rien, c'est fait pour accueillir des matériaux. Ou c'est méprisable, c'est rien. C'est là qu'on stockait les thés et les épices pour le pays, déchargés sur les quais de la Garonne. Bon, on n'a plus besoin de ça. On va le démolir. Ouais, mais qui est venu le regarder pour empêcher de le démolir? Et grâce à qui devons-nous que l'autre soit conservé, mais au tollé que ça a fait auprès d'un tout petit groupe qui s'est attaché à protéger l'autre?
Ce tout petit groupe, cet esprit, c'est aussi celui qui vous fait plonger dans l'univers de la mode en se disant des jeunes créateurs,
oui.
des jeunes créateurs qui vont devenir fameux.
Oui, Céline Jacquet, Thierry Mugler.
Il y a Adeline André, je crois aussi.
Adeline André.
Il y a Marc Held.
Absolument.
Il y a tous ces gens-là.
Des gens remarquables, absolument.
C'est cet esprit qui vous fait dire, mais il faut absolument et impérativement, Castelbajac, bien sûr, que leur création, leur démarche, leur esprit soient aidés et supportés par des gens qui en ont les moyens. C'est ça l'idée de...
Ah, c'est complètement l'idée du mécène, au fond. C'est l'idée que quand on a autant d'imagination, autant de liberté, et qu'on a aussi souvent énormément peiné, énormément appris, était très laborieux. Il ne s'agit pas de petits écervelés, il s'agit de gens qui ont des passions. Je vous parlerai volontiers d'un personnage qui m'a passionné, que j'ai rencontré il y a finalement très peu de temps, qui est ce chercheur du CNRS, Patrick Blanc. Mm-hmm. Mais ce sont des gens qui ont une science incroyable. Et comment est-ce que c'est tolérable, si on a de l'imagination, de ne pas les mettre en rapport avec des gens qui vont quand même finalement changer leur vie, parce que à travers des actions qu'ils n'auraient pas, ou qui prendraient beaucoup plus de temps à obtenir, ils vont être tout d'un coup célèbres. Mais c'est sublime de pouvoir vivre ces moments-là.
Patrick Blanc, je rappelle que c'est le, on peut dire, paysagiste qui a fait ce mur. C'est
un grand botaniste, voilà, botaniste qui a eu l'idée de génie, de faire breveter d'ailleurs, l'idée du jardin vertical.
Voilà, et qui a fait qui a réalisé le mur de la cour du Pershing.
Soyons clairs, c'est bien de lui qu'il s'agit.
Et alors, comment est-on une, est-ce que je peux dire ce mot, une entremetteuse entre finalement ces talents
C'est de la passion, c'est une chose que les créateurs ont rarement. Peut-être là, il y a une drôlerie, une bizarrerie, c'est que les créateurs sont tellement occupés d'eux-mêmes que je pense qu'ils sont rarement aussi disponibles au travail des autres. Mais moi, j'ai aussi ce plaisir de le regarder tôt dans la vie des gens, leur travail. Et j'ai eu l'habitude, avec Didier Grabach, d'être une des personnes de Paris qu'il fallait aller voir pour lui montrer. Et le nombre de gens qui m'ont apporté des projets qui n'avaient rien à voir avec ce que je pouvais leur offrir, un créateur industriel, c'est magnifique, parce que ça racontait que personne ne s'était senti détaché de son milieu.
Gêné ou décalé.
J'ai reçu les peintres, alors que je ne pouvais rien faire pour eux officiellement, mais j'ai reçu aussi des menuisiers ou des gens dans la fabrication, mais qui avaient du génie dans leur fabrication, qui faisaient des choses que plus personne ne saura faire dans 10 ans, un peu dans l'esprit des objets de maîtrise du temps passé.
Et alors, germe, quand vous rencontrez ces gens, des tas d'idées en étant même temps...
Je ne cherche même pas à les rencontrer. Ce qui est joli dans mon histoire et qui est ma chance, c'est qu'ils n'ont pas besoin même de me parler tellement de ce qu'ils font, mais je sens très vite des gens, quand ils sont passionnés par quelque chose et qu'ils ont apporté quelque chose au savoir, dans des domaines plutôt de l'émotion et de la sensibilité, c'est que je les reconnais, je les vois. Et ça fait une très belle vie, pour bien dire, c'est... Quand je pense à ma vie, je suis ahuri de cette magnifique chance que j'ai d'avoir gardé la liberté, l'indépendance d'esprit, de ne pas être la petite chérie de l'establishment, d'avoir échappé à l'abrutissement des récompenses, des honneurs, que tout ça compte très peu.
Oui, ça, on n'en a pas parlé des honneurs, mais je sais que... Vous n'aimez pas ça ?
Non. Non, ce que j'aime, c'est que dans la rue à New York, un petit messager ou un petit coursier s'arrête et me dise « Hi, Miss Putman, j'adore votre travail. » Ça, c'est des choses qui m'arrivent très souvent.
Et cette ouverture, c'est aux autres tout court, en fait. On ne va pas dire ni les autres domaines, ni quoi que ce soit,
oui,
aux autres tout court.
Oui, c'est vraiment le goût des autres.
C'est quelque
chose très fort.
C'est quelque chose que vous continuer à mettre en œuvre et à pratiquer, puisqu'en fait, beaucoup de jeunes designers ou de jeunes architectes qui après ont parfois des parcours autres passent, j'allais dire, entre
beaucoup
vos mains.
Beaucoup de gens pensent à moi comme premier bureau en sortant de l'école.
Oui. Alors, j'ai en mémoire Vincent Borin, qui a passé un moment chez vous.
Oui, mais Vincent Borin, c'est un artiste, il est passé comme ça.
Ah oui, il n'est pas comme ça qu'il raconte cette histoire-là.
Ah non, mais j'aime beaucoup et admire Vincent Borin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait une forte existence déjà et beaucoup de choses derrière lui quand j'ai rencontré.
Mais c'est quand même des oiseaux que vous... sur lequel vous posez votre œil et hop, vous les accueillez finalement même.
Mais j'ai eu ça justement beaucoup avec Inga Sempé.
Voilà, Inga Sempé qui est une jeune designer.
Un très très charmant ami commun qui voulait absolument que je la rencontre. Et à l'époque, je n'avais rien à lui proposer. Je fuyais ce personnage parce que j'étais sûre que c'était une bonne idée, mais je pouvais rien obtenir de ce projet parce qu'on était déjà trop nombreux. Enfin bon. De ces banalités qui encombrent l'esprit et la vie et qui font que beaucoup de choses sont impossibles. Et puis je l'ai rencontrée et quand je lui ai demandé ce qu'elle avait fait comme pour son diplôme, j'ai oublié son école, vous la connaissez peut-être.
Elle était aux ateliers Saint-Sabin.
Voilà. Et qu'elle m'a dit qu'elle avait fait un texte. Déjà, j'ai été très intriguée, ça m'a évidemment énormément intéressée parce que la littérature me passionne complètement et j'essaie de lire ce qui se passe un peu et de comprendre où on en est dans ce domaine. Et quand elle m'a dit que c'était un livre, une étude sur la désuétude, alors là vraiment je lui ai demandé de me le prêter. Et j'ai pas pu m'arrêter avant de le finir, tellement j'ai aimé ce texte. Et alors là, j'ai trouvé une place, ben, c'est comme ça. Ça n'a pas l'air très juste, mais on a trouvé une place pour Inga, et elle a travaillé avec nous pendant longtemps. Pour moi, c'est un être très, très rare.
Vous venez parler de la littérature et des mots.
Ah oui, je ne demande pas mieux. J'ai lu tous les romans russes entre 11 ans et 18 ans, je pense. C'était l'initiation à la Russie que j'ai reçue de mon père, qui parlait le russe comme un russe, et qui avait une passion pour cette littérature-là. Et c'est vrai que c'est un joli début pour entrer comme ça... Dans l'idée même du texte. Alors, il y a beaucoup de sortes d'écrivains chez les Russes, mais j'en ai lu beaucoup et je crois que ça m'a rendu une lectrice au sens naturel du mot. Je suis. Quand je vois un livre, même si je fais un peu une mauvaise action, je fais attendre quelqu'un 3 minutes, il faut que je lise la première page, par exemple. Et que je. Me pose la question, est-ce que je suis embarqué? Parce que c'est vraiment un peu le mot qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on est emmené déjà quelque part par ce texte? Alors il y a des fois où je sais très bien que c'est une page beaucoup plus lointaine qui va m'embarquer. Mais quelquefois on est embarqué dans l'instant même.
Est-ce que la littérature contemporaine, qui est quelquefois plus introspectrice, peut-être aussi parfois plus heurtée, j'allais même dire presque déchirée.
C'est souvent très douloureux.
Voilà, c'est le mot.
Il s'agit constamment de relations plus ou moins tragiques ou ratées ou affreusement irritantes et frustrante. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur la mésentente, et sur la douleur d'être avec l'autre, amoureusement ou amicalement ou professionnellement, peu importe. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet.
Cette littérature-là vous intéresse énormément?
Oh, pas particulièrement. Voilà. Non, j'ai... Peut-être j'ai eu une espèce de folie d'admiration pour Claude Simon. Je crois que j'ai lu La Route des Flandres une trentaine de fois.
Pas facile à lire.
difficile, c'est pas par hasard. Et d'ailleurs, vous savez, ce qui m'arrive souvent, tout d'un coup, je suis à la page 100 et je suis toujours aussi heureuse et absolument en état d'impatience folle pour la page 101. Et je m'impose de recommencer à la page 1 parce qu'il y a quelque chose qui a été évoqué, mais je ne sais plus dans quel morceau du livre, et qui est une des clés du livre à mes yeux, mais je n'ai pas perçu complètement, et je recommence complètement.
Vous donnez des excuses pour recommencer, en quelque sorte.
Exactement ça.
Là, nous avons vu que vous aviez agi et interagi aussi bien dans l'univers de la mode, des arts, de la décoration et du design, en essayant de faire que tout ceci ou que tout cela puissent se rencontrer et faire des choses ensemble. Est-ce que la littérature est quelque chose que vous aimeriez aussi mélanger avec tout ça, ou ça reste quelque chose de secret, de personnel? Secret, peut-être pas le mot, mais en tout cas de...
Oui, c'est une chose qu'on pratique seule, finalement, la littérature.
Et l'écriture?
L'écriture, c'est... Je pense que c'est ce qui est le plus enviable au monde. Mais j'ai pensé depuis toujours, et je ne me suis pas lancée à écrire.
Pourquoi, si je peux me permettre?
Peut-être parce que j'ai trop admiré l'écrivain pour imaginer que je pourrais écrire une ligne qui intéresse vraiment quelqu'un.
Vous avez pourtant, et ça je pense que vous le savez...
Mais j'écris beaucoup de lignes. J'écris des lignes pour présenter un travail. J'aime beaucoup... je suis constamment, mais ça n'est drôle, priée de parler de l'exactitude. Une marque de montre me demande de faire un texte sur le luxe. Renault me demande de faire un espèce de dialogue sur une nouvelle voiture avec un personnage occulte, imaginaire. J'adore écrire, mais ça ne s'appelle pas écrire, ça.
C'est quand même un exercice.
Ah mais bien sûr,
c'est une passion, manière de.
Et puis une passion qui mène à rien pour le moment.
Pour le moment. Oui. Et je sais que cet amour pour l'écriture que vous avez, et ce talent de conteuse, de trouver des histoires dans chaque chose, et c'est quand même une conjugaison qui pourrait apparaître naturelle.
Ça me touche que vous disiez ça, parce qu'il y a cette jeune femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Sophie Tasma Alain-Giraud, qui a écrit le texte de mon livre, d'un travail sur mon travail. C'est un peu
d'un ouvrage sur votre travail aux éditions du Regard.
Travail, qui est un deuxième livre, parce qu'il y en a eu un avant. Et elle me soupçonne de n'aimer que les histoires et la littérature.
Elle a juste raison, peut-être.
Et d'avoir fait un tour avec autre chose, autour des mots et des histoires. Et elle me le dit souvent... Et ça m'a fait très, très, très plaisir. Parce que je me suis dit, je ne rêve pas, les mots m'intéressent vraiment. Et elle me l'a confirmé.
Justement, José Alvarez, qui est l'éditeur des éditions du Regard, dit de vous que vous êtes une rêveuse inassouvie, mais un être d'entreprise et de combat. Et je trouve que cette définition est aussi peut-être la définition de quelqu'un qui écrit. Pour finir avec cette écriture que vous aimez tant.
Ouais, ça me plaît, cette idée. Le combat n'est pas la guerre. Donc, sur le moment, j'ai eu peur du mot combat, mais non, ça me va très bien. Ça
vous
plaît.
Va? Et être une rêveuse inassouvie, ça
Je vois, va? Je vois. Oui, 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 il a raison. Oui, il a raison. Il m'a fait écrire une préface un jour et après il m'a dit que je devais écrire.
Mais j'espère que vous allez vous y mettre.
On verra.
André Purpman, pour terminer cette série d'émissions, j'aurais voulu juste vous poser une question. Peut-être les mots ne vont pas être les bons, mais justement je compte sur vous puisqu'on a parlé de votre amour des mots. Vous préférez insolence ou désinvolture? Et qu'évoque-t-il ces deux mots?
Désinvolture.
Désinvolture.
Mais je préfère encore liberté.
Je vous remercie beaucoup d'avoir passé avec nous ces moments.
Merci à vous.
Merci.
C'était un hommage à André Putman, décédé le 19 janvier, et que Catherine Gell avait rencontré en 2002. À voix nue, réalisation Christine Berlamont, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.